Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h48, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner de l'actu. Ce matin, Arlette Chabot avec nous, Virginie Martin et Elisabeth Lévy. On revient sur plusieurs sujets. Bien sûr, on évoquera les autres, les vôtres au 0826 300 300, à moins que vous ayez envie de rebondir justement sur le Black Friday ce matin.
Ah bah non, mais attendez, parce que là, le standard est assez occupé, évidemment, aussi par le jeu. On a lancé le jeu. Donc, je ne vous raconte pas notre ami standardiste.
Il est au bout du rouleau.
Il est au bout du rouleau.
Allez, Manu.
Pour l'instant, allez, Manu. Bon, donc c'est vrai qu'il y a tous ces sujets sur la table.
Le Black Friday, la présence de la France au Mali.
Oui, absolument. Alors, on évoquait le Mali à l'instant, avec cet hommage qui sera rendu lundi, et ces familles endeuillées, 29 ans de moyenne d'âge pour tous ces jeunes garçons qui ont été tués dans cette opération. C'est terrible. Est-ce que ce n'est pas indécent quand même d'avoir posé dès hier la question de la présence française au Sahel, Virginie Martin, Arlette Chabot, Virginie?
Je ne sais pas. En même temps, la question se pose. Alors voilà, il y a toujours... est-ce qu'il y a un temps, comme vous le disiez, de décence avant de poser les questions? C'est-à-dire le temps du deuil, le temps de la nouvelle, des drames. Et puis, on peut reposer les questions et refaire de la politique quelques jours après pour respecter ce temps de décence de la part donc, des députés de la France Insoumise. Je ne sais pas. Oui, on peut dire ça. Après, dans le fond, ils ont sûrement raison. La question
se pose
vraiment.
En tout
maintenant,
cas,
elle pouvait attendre lundi. Vous voyez, ce n'est pas comme si on n'était pas dans ce genre de pays depuis des années et des années. Est-ce qu'on ne doit pas effectivement laisser ces guerres à ceux finalement qui sont concernés directement
et sauf que ça nous concerne.
Oui, bien sûr, ça nous concerne. Mais en même temps aussi, parfois, on met aussi du désordre dans ces guerres.
Oui. Arlette Chabot.
Alors, effectivement, c'est assez étonnant que la France Insoumise soit partie aussi vite, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui, généralement, après, par exemple, chaque événement grave qui touche la nation, la communauté, la République, est généralement très, très solidaire des Français. Et après chaque attentat, par exemple, il exprime son soutien au gouvernement qui lutte contre le terrorisme. Donc, hier, on a été étonnés, effectivement, par cette intervention. Cela dit, il est sans doute souhaitable qu'à un moment ou à un autre, il y ait un débat au Parlement sur le sens de la mission française au Sahel, parce qu'il ne faut pas évidemment la limiter au Mali, puisqu'on voit bien, puisque la menace islamiste se répand dans toute la région et touche les cinq pays du G5 Sahel, évidemment, de s'interroger sur le sens de la mission. Quant à dire... il faut laisser la guerre aux Africains, c'est bien, sauf que les Africains sont incapables, et ce n'est pas de leur faute, sont dans l'incapacité en tout cas, eux-mêmes, de lutter contre les djihadistes. Si nous, on ne réussit pas, nous, avec les moyens qui sont les nôtres mais qui sont forts, comment arriver à laisser les armées tchadiennes, maliennes, du Burkina Faso combattre les djihadistes? C'est impossible.
Et surtout là où qu'il y a des morts en permanence. La semaine dernière, il y a eu une quarantaine de soldats
maliens tués. Et ça veut dire que la mission peut-être sur laquelle il faudra insister, c'est effectivement toujours la même. C'est la formation de ces armées pour leur capacité de résistance. Mais tant que ces armées ne sont pas en capacité de tenir tête aux djihadistes, n'ont pas les moyens, eh bien, on est en quelque sorte... obligé de rester et combattre sur place.
Il y a aussi, pour compléter ce que dit Arlette, il y a aussi toute la logistique et la technique arrivée directement des États-Unis, qui là est complètement indispensable, que nous n'avons même pas. Donc ça aussi c'est important, mais c'est vrai aussi qu'il y a quand même un besoin peut-être de meilleure coopération, d'aider plus, de passer peut-être aussi des compétences pour pouvoir aussi autonomiser, si je puis dire...
Vous avez parlé, c'est vrai, du soutien des Américains qui luttent aussi contre le terrorisme.
Mais en même temps, avec un Trump ambigu, comme on le sait, par ailleurs.
Et puis une Europe qui est complètement absente aussi, pour le coup.
Bien sûr.
Presque totalement absente. Il y a un millier de militaires allemands qui sont là, mais qui ne participent pas directement au combat.
Les Allemands sont très
Il y a aussi un certain nombre de pays européens et pas des plus grands, les petits pays qui participent.
La question de
l'Europe de la défense se posera encore dans 20 ans, on a l'impression. C'est quand même un vrai problème.
Et on a une réaction au standard avec Grégory qui nous appelle de Paris.
Bonjour Grégory.
Bonjour Grégory, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour messieurs, dames. Alors, une grosse pensée aux familles des militaires qui sont morts, bien sûr.
Oui.
Pour moi, il faut partir du Mali. Je pense que la guerre contre le djihadisme, l'islamiste, là-bas, c'est un peu un faux prétexte. C'est pour, moi, je veux dire, très clairement, c'est pour protéger toutes les entreprises, grosses entreprises françaises, telles qu'Areva et tout ça, qui sont là-bas, qui exploitent l'uranium, on va dire. Oui. Et pour moi, c'est juste une protection pour ces entreprises. C'est elles qui devraient payer tout ça, et pas nous. Bon, Areva, c'est la France, on dirait.
Oui, bah oui. Non, mais alors, c'est vrai qu'il y a une double observation hein, dans ce que vous dites, Grégory. Si nous sommes aussi là-bas, la France, c'est aussi, évidemment, parce qu'il y a des intérêts français, il y a toujours des liens assez forts, et il y a cette protection. On se souvient qu'il y a eu des prises d'otages hein, aussi dans le sud de l'Algérie, bien sûr, puisque ça touche, hein, le Sahel remonte jusque-là, et qu'il y a probablement cette mission. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faudrait les laisser alors et tout quitter, Grégory? Selon vous,
bah, c'est à se poser la question, est-ce qu'on doit risquer les vies de nos militaires pour ça, on va dire. Ça fait quand même 38, je crois, depuis le début, hein, qu'ils sont morts.
Ouais.
Donc ça commence à faire beaucoup pour. Surtout, ils sont combien ? Ils sont quelques milliers, même pas quelques milliers de militaires là-bas pour un territoire qui fait 20 fois la France.
4 500 au total hein, ont
oui,
été déployés
sont,
là-bas.
Qui sont déployés sur le Mali, sur le Bénin, tout ça. Et c'est immense, ils ne peuvent rien faire. Et surtout qu'il n'y a pas d'armée là-bas non plus.
Ouais, et en même temps, il y a une menace islamiste qui est incontestable hein, là-bas, qui se développe
Et qui se développe et qui étend quand même son territoire. Donc c'est vrai qu'il faut aussi le contenir. Mais
ce que dit Grégory et Virginie, c'est quand même qu'il faudrait un débat.
Hein, Grégory, non, c'est ce qu'on disait aussi avec Arlette. Hein, c'est pour ça qu'il
faut attendre. Il faudrait attendre l'hommage et Grégory et ensuite qu'il y ait peut-être un débat à l'Assemblée nationale.
Bien sûr. Et puis
il y aura quoi comme débat?
Non, mais si débat sur
ça servira à rien. Mais surtout que, comme vous l'avez dit, il n'y a que la France, ça va. Que font les autres pays européens?
Oui.
Que fait l'ONU ou l'OTAN même.
Il y a des forces.
Il y a des forces. Il y a des forces onusiennes qui sont plus au sud aussi.
Ce qu'on disait aussi, enfin, par rapport, pour faire écho à ce que vient de dire Grégory.
Oui.
C'est vrai que ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est la question de l'Europe de la défense. Quand est-ce qu'on va finalement arriver à se mettre d'accord, à avoir une Europe commune, une Union européenne plus ou moins commune là-dedans, avec des envies et des volontés convergentes, parce que c'est ça quand même. Sur le papier, grosso modo, l'Allemagne est d'accord, mais enfin bon, voilà, elle ne fait pas grand-chose. Vous voyez, c'est quand même pas normal non plus de dire c'est... Le fer de lance de l'Union européenne, c'est toujours le pilier, le couple franco-allemand. Mmh. Et puis sur la défense, il n'y a plus personne. Enfin, y a quand même un problème, un dysfonctionnement profond. Mmh. On reparlait aussi tout à l'heure des ambiguïtés de Donald Trump. C'est quand même très compliqué aussi avec son retrait plus global. Après, effectivement, les intérêts en Afrique, aujourd'hui, ils sont évidemment aussi très convoités par la Chine. La Russie a des intérêts aussi. Enfin, tout ça, de toute façon, c'est un imbroglio géopolitique. Oui. Et l'Union européenne participe de cet imbroglio géopolitique.
Oui. Moi, je veux bien qu'on évoque les intérêts français. Les intérêts français, d'abord, ils sont effectivement plutôt au Niger, Areva.
Un peu plus bas.
Et en même temps, si effectivement la France n'était pas intervenue, et là, tout le monde est unanime, effectivement, au Mali, Bamako serait tombée, les djihadistes seraient au pouvoir, et on n'aurait que nos yeux pour pleurer, parce qu'on dirait les terroristes sont au pouvoir dans un pays et, effectivement, sont à la conquête des autres. Donc il faut être un peu raisonnable et regarder les choses avec un peu de distance.
Merci Arlette Chabot, Virginie Martin. On poursuit le débat dans 5 minutes maintenant avec vos appels au 0826-300-300. On viendra sur les retraites parce qu'on a du mal à comprendre quelque chose, à tel point d'ailleurs qu'on a l'impression, ce qu'on disait avec Arlette Chabot dans l'édito ce matin à 7h20, que le gouvernement est en train de se mettre tout le monde à dos. Et puis cette idée aussi du Black Friday qui suscite quand même bien des polémiques, notamment aussi parce qu'elle est étendue sur plusieurs jours, et que les GAFA s'en donnent à cœur joie et qu'ensuite il faut les livrer ces colis, hein, évidemment. Et donc on dépense aussi beaucoup d'énergie et on pollue en même temps. On en parle tout à l'heure.
Et le standard est ouvert et nous sommes en direct jusqu'à 10h, 0826 300 300 si vous voulez échanger avec Virginie Martin et Arlette Chabot ce matin sur des sujets qui vous intéressent.
Oui, les retraites et le Black Friday dans un instant. Tout à l'heure aussi à 9h15, hein, les agriculteurs sont-ils maltraités? On a entendu à l'instant avec Arthur qu'il y avait une mobilisation, c'est 1000 tracteurs. On était en direct ce matin avec des agriculteurs sur leurs tracteurs qui nous écoutent aussi en même temps et qui peuvent
parler.
On est à
1500 tracteurs.
Un Bluetooth, hein, oui, ils ont le Bluetooth, ils utilisent de
très organisé.
Très organisé. Vous êtes très nombreux aussi à voter sur les réseaux sociaux et vous dites à plus de 80% qu'ils sont maltraités, et 90% même sur Facebook. Et avec beaucoup de réflexions très intéressantes qu'on verra tout à l'heure, justement, à 9h15.
Avec Jean-Baptiste Moreau
notamment, justement. Alors qui est dans une position un petit peu difficile, Jean-Baptiste Moreau. Parce que c'est un agriculteur, il défend aussi le gouvernement, En Marche, etc. Arlette Chabot, Virginie Martin, on a parlé beaucoup du Mali, ça a fait réagir en nous appelant d'ailleurs au 0826 300 300. Les retraites, on a du mal à comprendre où on va et quelle est la stratégie peut-être très précise du gouvernement, ou alors au contraire il y a du cynisme, Arlette Chabot.
Au début on s'est dit finalement c'est une stratégie, le flou, hein, c'est-à-dire on entretient l'ambiguïté sur tous les sujets et du coup le gouvernement va pouvoir avancer. En fait, je ne sais pas si c'était vraiment un choix, une stratégie. En tout cas, elle est perdante. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le gouvernement est en situation difficile. Le Premier ministre devrait parler peut-être à la mi-journée déjà pour indiquer le calendrier. Il a déjà dit à ses députés hier qu'on connaîtrait les grandes lignes de la réforme avant Noël. Oui, sauf qu'il y a le mur du 5 décembre qui est là. Ouais. Et qu'effectivement, il est désormais incontournable, insurmontable, si j'ose dire, ce mur. Donc au fond, le gouvernement s'est effectivement trompé depuis le début, c'est-à-dire il y avait une ligne claire, on peut être d'accord ou pas d'accord avec la réforme, mais c'était clair. Il y avait une concertation, il y avait effectivement des propositions de Jean-Paul Delavoye, et puis hop, tout est parti en vrille, dans la confusion totale, et tout le monde effectivement, comme vous le disiez, est fâché aujourd'hui, c'est-à-dire il y a les opposants à la réforme qui depuis le début veulent mobiliser contre elle. Ça concerne tous les syndicats sauf la CFDT. Et puis la CFDT elle-même est en difficulté parce que les annonces contradictoires du gouvernement la mettent en porte-à-faux sur un certain nombre de points essentiels. Du coup, on est dans le bleu, dans le brouillard. Je ne sais pas si c'est la météo du jour, mais en tout cas, on y voit de moins en moins clair.
Oui. Virginie Martin.
Oui, c'est le cumul des mécontentements. Du coup, oui. Excusez-moi.
Mais c'est ça. Oui,
c'est le cumul des mécontentements. On le voit même sur la question des femmes. Ils sont en train de revoir certaines choses.
Sur les mères de famille,
sur
bien sûr.
De familles, notamment des familles nombreuses, dont plus de 3 enfants, des choses complètement incroyables, pour dire oui, mais on va mettre tout le monde à égalité, mais c'est une égalité par le bas, si je puis dire. Vous voyez, enfin, tout ça est super étrange. Quand vous mettez à dos les femmes, les fonctionnaires, les régimes spéciaux, le privé, le public, ça commence à être un peu trop de monde, tout cela. Et sachant qu'il y a aussi des femmes qui sont dans le privé, dans le public, etc. Évidemment.
Et que le privé commence à s'y mettre, d'ailleurs.
Et que le privé commence aussi à voir que l'âge pivot qui va tourner, finalement, à 64 ans, quand vous savez aussi qu'au-delà de 50-55, c'est compliqué de retrouver du travail, il y a aussi une réflexion, il y a une absurdité. Et moi, j'aimais cette réflexion, je ne cite pas toujours Michel Onfray, même rarement, mais là, j'aimais beaucoup ce qu'il disait. Quelle est cette idée étrange que parce qu'on va vivre plus longtemps, il faudrait cotiser plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps, il faudrait tout d'un coup consacrer toutes ces années gagnées, toutes ces années gagnées au travail. Alors que, et là j'en reviens à ma marotte que le gouvernement ne traite pas, quid de l'intelligence artificielle, quid des robots, quid de la fin du travail, tout cela va de toute façon se métamorphoser profondément, philosophiquement même. C'est une question qui pose pas, on dirait un gouvernement des années 70 à l'ancienne.
Ils
font les mêmes choses.
Virginie,
on fait le coup de rabot. Non mais excusez-moi, juste je finis. On fait le coup de rabot habituel et on ne pense pas la société. On ne pense pas le monde, on ne pense pas les évolutions. Moi je suis
Arlette, c'est la question de l'équilibre financier. On vit plus longtemps, donc il faut financer aussi.
Oui, c'est assez logique de se dire qu'il faut quand même payer les pensions de retraite.
Mais alors, avant
que le monde du travail ait changé et que les robots soient partout, Dieu merci, ils ne sont pas encore partout, les robots, effectivement, il faut quand même financer. Donc, la réforme qui serait mise en place à partir de 2025 avec un déficit encore non réglé, évidemment, ça paraît extrêmement difficile. Et c'est là aussi que le gouvernement est en porte-à-faux, puisqu'Emmanuel Macron, pendant la campagne, avait dit qu'il n'y avait pas de problème d'équilibre financier. C'était un rapport à l'époque du Conseil d'orientation des retraites, qui depuis en a publié deux
autres,
pour dire exactement l'inverse. Du coup, là aussi, le gouvernement est en porte-à-faux. Là aussi, la CFDT se trouve en difficulté, parce qu'elle ne veut pas entendre parler de ces mesures financières. Donc du coup, franchement, on n'y comprend plus rien. Et il va falloir non seulement que le gouvernement dise s'il est oui ou non attaché à sa réforme du système, oui ou non, de quelle manière va s'effectuer, parce qu'il faut le dire au pluriel, les transitions pour tous les emplois, les régimes spéciaux, les régimes autonomes, etc. Et puis qu'ils disent aussi, alors, on comble le déficit, et comment fait-on ? Ça veut dire travailler plus longtemps, mais comment on travaille plus longtemps ? Eh bien, tout est encore une fois sur la table, et tout va fâcher, en fait, parce que effectivement, il faut répondre à une question, c'est qui va profiter vraiment de la réforme. Parce qu'il y a un doute général, même parmi ceux qui étaient favorables, même la CFDT qui dit oui, les femmes qui travaillent vont profiter davantage, vont gagner davantage avec cette réforme.
Et le minimum vieillesse quand même, qui sera à 1 000 euros.
Oui, 1 000 euros.
Et puis ce qui est aussi très désagréable, et ça c'est une question de génération, c'est quand on change les règles du jeu en cours de route. Et là, tout d'un coup, vous mécontentez tout le monde. Les gens qui ont aujourd'hui 35, 40, 50, 55.
Ouais, mais on ne peut pas arrêter. Comment on fait,
mais c'est compliqué. Vous vous rendez compte, vous rentrez dans une entreprise, on vous dit je vous embauche à 1200 euros, et puis à la fin, on vous embauche à 700. Ouais. Vous voyez que c'est quand même compliqué. Parce que on ne peut pas faire ça comme ça. Donc il y a aussi peut-être, au lieu de parler tout le temps d'âge pivot, de fin de la retraite, qui recule un peu comme l'horizon, chaque fois que plus on s'en approche, plus il recule. Là, c'est exactement la même chose. Peut-être qu'il devrait aussi peut-être changer les entrants. En fait. Et peut-être que les vraies réformes vont peut-être plus concerner les entrants que les entrées depuis des années et des années.
En tout cas...
Je trouve, si vous voulez, que ce sont des réformes de courte vue. Je trouve que ce sont des coups de rabot un peu faciles, alors que les choses sont complexes. Et je trouve que le gouvernement, de ce point de vue-là, n'est pas à la hauteur, justement, de tous les écrits sur ces questions.
Oui, sauf quand même, Virginie, que la réforme... le changement total de système, la transformation du système, avec la retraite à points, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et sans doute que le pouvoir, ou Emmanuel Macron lui-même, n'avait pas mesuré l'ampleur ou les conséquences de cette réforme. Sous-estimer les effets, parce qu'elle est extrêmement difficile à mettre en place. On prend les enseignants. Eh bien, le gouvernement le dit, oui, ils toucheront moins. Donc, il faut augmenter les rémunérations, c'est légitime. Donc, s'il faut avoir réglé le problème des rémunérations avant que ne s'applique la réforme des retraites, elle va coûter cher, et tant mieux pour les enseignants, et c'est légitime, mais ça va prendre du temps, et c'est difficile.
Oui, bon, autre sujet...
Et puis, moins de chômage, plus de cotisations aussi de haut niveau.
Bien sûr.
Voilà.
On reviendra, il y a des appels encore au standard, on y reviendra dans quelques minutes, notamment aussi sur le Mali. Ben, on vous donnera la parole. Il y a un coup de gueule que vous vouliez pousser, Virginie, sur le Black Friday.
Oui, moi je suis assez d'accord à la fois avec la ministre Elisabeth Borne et aussi avec Extinction, Rébellion, Attaque et autres associations écologistes. À quelques jours de la COP25, sachant donc qu'il va se tenir à Madrid sur les questions des gaz à effet de serre et donc des politiques qui viserait et qui essaye de viser à protéger la planète. Si vous voulez, je trouve que le Black Friday vient sonner un peu comme une ironie du sort.
Pourquoi ?
Voilà, parce que c'est évidemment de la surconsommation, l'empreinte écologique est énorme, la vétusté aussi, l'espèce de... C'est un peu comme le fast-food. Maintenant, le fast-food, c'est généralisé à tout. Voilà, le fast-food, des vêtements, des produits, du make-up, des iPhones, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est la fast consommation qui ne fait de bien à personne.
Mais non,
ni à notre frénésie psychologique, ni à notre frénésie de consommation, ni à la planète.
Oui, mais sauf qu'il y a beaucoup de gens qui attendent aussi ces journées de réduction, parce que quand on gagne 600, 700, 800 euros, ou que vous êtes au SMIC et que vous ne pouvez pas vous payer des choses, vous attendez ces journées où il y a des offres et des réductions à 40% pour pouvoir acheter. Et là, ce n'est pas de la surconsommation, Virginie. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens, puisque vous disiez tout à l'heure, le pouvoir d'achat, etc. Beaucoup de ces personnes attendent aussi ces moments pour pouvoir acheter.
Bien sûr, j'en suis bien consciente.
Là, c'est pas de la surconsommation, quoi.
Je parlais aussi que souvent, on le voit, je pourrais pas vous dire, je suis désolée, j'ai pas les chiffres, mais ça serait très intéressant de regarder combien de pourcentage de gens à ce moment-là sont pris d'une frénésie consommatrice, si je puis dire, et combien effectivement, parce qu'ils ont des budgets limités, justement, profitent à ce compte-là pour avoir ceci ou cela. Mais néanmoins, globalement, on sait très bien qu'on vit dans une époque de super consommation. Ouais. On nous pousse à cela toute la journée. Les études, même en neuromarketing, le prouvent. Même les aujourd'hui, tout ce qu'on voit en termes de photos, hyper photoshopées sur Instagram, sur le maquillage, la décoration, les vêtements, tout ça, c'est quand même aussi un embellissement de la consommation. Non, mais on dirait que la consommation, c'est rien. Derrière, c'est aussi parfois...
Ouais, c'est un petit peu toute l'année, hein, ouais, Virginie. Ouais. Oui, hein, c'est non, pas que là, oui, hein, sur les ventes privées. Non, tout,
je disais qu'on est dans une société de surconsommation globale.
Ce qui est assez choquant aussi pour certains, c'est que évidemment sont beaucoup les GAFA entre guillemets et Amazon qui inondent et là où il y a de la surconsommation.
Ce ne sont pas les commerces de proximité qui en bénéficient.
Oui, alors ils en bénéficient quand même, ils en bénéficient, mais il y a par exemple beaucoup de Parisiens, vous avez vu, beaucoup de Parisiens qui en profitent pour aller acheter évidemment sur Amazon et résultat, il va y avoir des millions de colis qui vont être livrés vendredi dans les rues, que ce soit de la capitale ou d'autres villes, et là c'est des...
Je pense qu'il faut...
Là, il y a un problème. Quoi.
Il faut essayer d'être raisonnable sur ce genre de choses.
Oui. Bon, des appels, et on va prendre Christophe qui voulait réagir et qui nous entendait sur le Mali tout à l'heure et qui est en ligne déjà depuis quelques minutes.
Et qui nous appelle d'Aix en Provence. Bonjour Christophe, bienvenue sur Sud Radio.
Oui. Bonjour mesdames, bonjour Patrick. Mais décidément, vous êtes toujours bien entouré, vous.
Hein. Il a du bol. Hein. Oui. Il ne fait pas ce métier par hasard, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pas pour l'info. Hein.
Bon. On vous écoute, Christophe. Alors, je vais être... je le sais, peut-être politiquement très incorrect, tant pis, je risque de vous parler un petit peu sur quatre points. Alors, il y en avait un que j'avais pas prévu, mais je rebondis, et c'est qu'à le dire, sur la réflexion de Mme Thomas. Faut pas se faire de bile, le pouvoir macroniste, il est comme le basileus de Byzance, il fait attention à Byzance, il a peur des Grecs, des gilets jaunes, et ils favorisent les peuples nomades qui sont les parthes, les scythes, les turcs, et à l'arrivée, Constantinople, Byzance, fut détruit par Mehmet II, le conquérant. Ouais. Mais ça, c'est autre chose. Mais ça, je dis à Madame Thomas. Ouais. Bon, pour ce qui est du Mali, la première chose, c'est que je rends hommage, comme beaucoup de gens, à ces pauvres jeunes gens qui sont morts dans des conditions atroces, et surtout aux parents, parce qu'il n'y a rien de plus terrible que d'assister à la mort de ses enfants. Et comme ils ont entre...
ils ont 29 ans de moyenne d'âge.
Leurs parents sont vivants, etc. etc. Ouais. Maintenant, c'est là où je vais devenir incorrect. Ouais. Si une société ne supporte plus que 13 militaires dont la vocation et la destinée est un militaire, c'est un homme de combat. Ouais. Donc il est sur le champ de combat. Ouais. Mais si une société ne supporte plus que 13 militaires meurent, elle est d'une fragilité terrible. Oui. Ça, c'est mon premier point.
Oui.
Deuxième point, le commandement.
Oui.
C'est si tant est que ce qu'on nous raconte, c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Mais envoyer des hélicoptères avec une nuit sans lune, avec des nuages épais, donc aucune visibilité, le haut commandement me fait penser à ces généraux du 14-18 qui envoyaient des gens se faire tuer pour rien du tout. C'est une chose. Maintenant, troisième point.
Allez, dernier point, parce que là,
Christophe...
Je sais. Allez-y.
Troisième point. Si on va au Mali pour Areva et compagnie, c'est lamentable. Si on va au Mali pour l'idée française qui a toujours été le bonheur de la France, d'éclairer la civilisation, enfin les civilisations, là c'est mieux. Et il ne faut pas oublier que Federde, il a une statue au Sénégal.
Quatrième point, Christophe.
Et voilà, je vais finir. Les peuples de cet endroit-là ne nous ont pas attendus, nous les affreux colonisateurs, les affreux impérialistes, les dangereux chrétiens et compagnie, pour se mettre sur la gueule, parce que toute l'histoire de cette région, c'est les musulmans touaregs contre les animistes noirs du Sénégal et du Mali.
C'est complexe. Merci Christophe pour cet éclairage. On aurait dû vous prendre un petit peu plus tôt dans la partie sur le Mali, parce que là on a en est pris par le temps, mais vous avez quand même eu le temps d'exprimer vos idées. C'est ça aussi Sud Radio, parlons vrai. Merci Arlette Chabot, Virginie et Martin, et tous vos appels également. Dans un instant, donc, notre débat, les agriculteurs sont-ils maltraités? Vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. On va le voir dans un instant et nous aurons nos invités, hein, Cécile.
Et bien sûr, ce matin, dans un instant, nous recevrons Jean-Baptiste Moreau, voilà, pardon, parce que j'étais
député de la Creuse, porte-parole d'En Marche, et puis agriculteur, et Daniel Prieur, hein, secrétaire général adjoint de la FNSEA, principal syndicat agricole.
Restez avec nous, 9h18, c'est le Grand Matin Sud Radio. Et ce matin, nous avons une gagnante au téléphone qui nous appelle de l'Ariège. Bonjour Marie-Jo.
Bonjour.
Bonjour Marie-Jo.
Bienvenue sur Sud Radio.
Mais merci beaucoup. Je suis vraiment, vraiment ravie. C'est la première fois que je gagne quelque chose à la radio et c'est vraiment super. Je suis trop contente.
Vous écoutez Sud Radio souvent ?
Ah oui, tous les jours. Et félicitations pour vos émissions, c'est génial. Vous êtes vraiment super. Super.
Eh ben merci beaucoup Marie-Jo, en tout cas.
On va vous faire plaisir.
Vous avez joué ce matin pour gagner une semaine chez notre partenaire Odalis, donc ce sont des vacances en France pour 4 personnes. Et ça, c'est un joli cadeau.
Ah, magnifique.
Et
vous remercie.
Vous nous enverrez des petites photos.
Ah, il n'y a pas de problème.
D'accord.
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, oui.
Un petit mot pour Sud Radio ?
Ah oh bah écoutez, c'est la meilleure des radios. Bravo à vous. Merci Cécile, merci Patrick, et merci toute l'équipe.
Bon. Et on vous embrasse très très fort Marie-Jo, et merci d'avoir joué avec nous, et excellentes vacances. Dans un instant, notre enquête du jour, 9h19.